Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, la maladie de Pompe. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Emmanuel Salor-Campana. Docteur Salor-Campana, bonjour.
Bonjour.
Docteur Salor-Campana, vous êtes neurologue au sein du service de neurologie et des maladies neuromusculaires et de la SLA de l'hôpital de la Timone à Marseille. Vous êtes clinicien du centre de référence des maladies rares neuromusculaires PACA Réunion-Rhône-Alpes sous l'égide de la filière FINNEMUS. Et vous faites partie du groupe de rédaction du PNDS de la maladie de Pompe, réalisé avec les filières FINNEMUS et G2M, qui est actuellement en cours de réactualisation. Alors, docteur Salor-Campana, pour débuter notre entretien, qu'appelle-t-on maladie de Pompe ?
La maladie de Pompe, c'est une maladie musculaire génétique qui est très rare, hein, comme vous avez, on va parler de quelques chiffres. En fait, la maladie de Pompe, en réalité, c'est une glycogénose, la glycogénose de type 2. Et c'est une affection qui est autosomique récessive et qui est responsable d'un déficit enzymatique. Et c'est vrai que c'est une maladie, dans les maladies neuromusculaires, qui est relativement emblématique, puisque c'est une des premières maladies musculaires génétiques qui ont pu bénéficier d'un traitement. Alors, quand je parle de très rare, donc, c'est quand même variable, hein, selon les études, selon les pays, hein, la prévalence, elle est estimée entre 1 pour 5 000 à 1 pour 37 000. En tout cas, en France, dans le registre dédié à la maladie de Pompe, qui est sous l'égide du professeur Laforêt à Paris, on y a, aux dernières estimations, 290 patients, dont 210 patients qui ont une forme tardive.
Et comment survient cette maladie rare ? Quelle est sa physiopathologie ?
Alors donc, c'est une maladie génétique donc, qui est autosomique récessive, qui va entraîner des mutations du gène qu'on appelle GAA. Elle est responsable en fait d'un déficit enzymatique. Cette enzyme s'appelle l'alpha-glucosidase acide et elle est responsable de l'hydrolyse du glycogène en glucose dans le lysosome. Et donc, le déficit de cette enzyme va entraîner une accumulation de glycogène dans les lysosomes, spécialement dans le muscle squelettique, mais aussi dans le myocarde et dans la musculature lisse. Il n'y a pas uniquement que ce mécanisme d'accumulation du glycogène qui est responsable de la pathologie. Il y a d'autres mécanismes à l'œuvre. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a une anomalie au niveau de l'autophagie. Il y a une dysrégulation de certains mécanismes qui sont au niveau des lysosomes. Il y a du stress oxydatif, il y a aussi des anomalies mitochondriales. Tous ces différents éléments vont contribuer en fait à une cascade pathogénique et vont venir altérer l'architecture musculaire et entraîner aussi un mauvais placement des myofibrilles.
Et concrètement, comment est-ce que ça se traduit ? Quels sont les principaux signes cliniques de la maladie de Pompe ?
Alors en fait, cette maladie, il y a globalement deux formes, une forme pédiatrique et une forme adulte. En réalité, il y a tout un spectre phénotypique avec une sorte de continuum. Mais bon, globalement, dans la littérature, on trouvera deux grandes formes. La forme infantile classique est une forme très grave qui débute dans les premiers jours ou dans les premières semaines de vie et elle est associée à une cardiomyopathie sévère, hypertrophique, avec également donc une atteinte musculaire qui va entraîner un bébé qui va être hypotonique, qui va avoir des difficultés à s'alimenter et une détresse respiratoire. Et dans cette forme, classiquement, le décès survient dans les deux premières années de vie du fait de cette atteinte cardiaque et de cette atteinte respiratoire, notamment parce qu'il y a une faiblesse des muscles diaphragmatiques et des muscles abdominaux. À côté de cette forme vraiment classique infantile très grave, il y a une forme aussi qu'on qualifie de non classique qui débute chez le bébé avant un an, mais qui est un peu moins sévère avec une survie prolongée. Et à côté donc de cette forme infantile, il y a la forme qu'on appelle de début tardif, qu'on peut trouver sous le terme de LOPD et qui est pour late onset et qui va en fait de patients qui ont un début après l'âge d'un an à des patients qui débutent à l'âge adulte. En fait, les formes qui débutent après un an sont qualifiées de formes de l'enfant ou de formes juvéniles. Et puis ensuite, il y a les formes de l'adulte, sachant que les formes qui débutent dans l'adolescence ou à l'âge adulte sont majoritaires. Et dans ces formes-là, il y a un spectre très, très varié qui vont de formes qui peuvent être assez sévères à des formes très peu sévères, voire quasi asymptomatiques, avec uniquement une augmentation des enzymes musculaires. Et ça donne donc un tableau de déficit des ceintures, donc un tableau myopathique classique, mais qui va être aussi associé à une atteinte de la musculature axiale et notamment donc, des muscles respiratoires, et va donner une formule qui est assez particulière, c'est que ce sont des patients qui peuvent avoir une atteinte respiratoire au premier plan, alors que ces patients marchent encore, alors qu'en règle générale, dans les myopathies génétiques, les patients qui ont une atteinte respiratoire sont déjà au fauteuil. Et dans cette forme-là, contrairement à la forme de l'enfant, il n'y a pas d'atteinte cardiaque.
Et pour les différents types que vous avez cités, docteur Salor Campana, quel est le pronostic pour les patients touchés ?
Alors, le pronostic de cette maladie a été révolutionné par les traitements et je ne vais pas en parler parce que ça va faire l'objet d'un autre épisode. Donc, la forme infantile, vous avez compris, avant l'apparition des traitements, était une forme le plus souvent qui était fatale dans les deux premières années du fait notamment de cette atteinte cardiaque et respiratoire. Pour les formes qui sont plus tardives, c'est une maladie qui avait tendance à s'aggraver lentement au fil du temps. Il y a des études observationnelles d'histoire naturelle qui ont montré une aggravation au fil du temps avec, pour une étude par exemple, le risque d'avoir recours au fauteuil roulant qui augmentait de 13% par an et la nécessité d'avoir un support respiratoire qui augmentait de 8% par an. Mais depuis l'apparition des traitements, le pronostic a été révolutionné, notamment pour la forme des enfants.
Et pour conclure, en cas de symptômes évocateurs ou en cas de doute, où adresser les patients ?
En fait, les grands modes de présentation pour l'adulte, ce dont je parlerai le mieux en tant que médecin d'adulte, ça va être soit une faiblesse musculaire, soit la découverte d'une augmentation des enzymes musculaires qu'on appelle les CPK, soit l'apparition d'une atteinte respiratoire au premier plan. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de médecins et de professionnels de santé qui vont être confrontés à ces situations. Mais donc, en cas de doute, c'est très facile. On peut faire un dépistage par un buvard. Donc ça peut être fait de manière très simple. Et l'idéal est de référer ce patient à un centre de référence de la filière Philnemus. Donc, pour trouver l'ensemble des centres de référence qui sont à proximité du domicile du patient, ben vous pouvez aller sur le site de philnemus.fr où il y a la cartographie de tous les territoires en France qui est répertoriée.
Eh bien, merci infiniment, docteur Salor Campana, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la maladie de Pompe. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !